L'éducation sentimentale, troisième partie, chapitre 4. Monsieur Dambreuse, quand Deslauriers se présenta chez lui, songeait à raviver sa grande affaire de houille. Mais cette fusion de toutes les compagnies en une seule était mal vue. On criait au monopole, comme s'il ne fallait pas, pour de telles exploitations, d'immenses capitaux. Deslauriers, qui venait de lire exprès l'ouvrage de Gobet et les articles de M. Chappe dans Le Journal des Mines, connaissait la question parfaitement. Il démontra que la loi de 1810 établissait au profit du concessionnaire un droit impermutable. D'ailleurs, on pouvait donner à l'entreprise une couleur démocratique. Empêcher les réunions houillères était un attentat contre le principe même d'association. M. Dambreuse lui confia des notes pour rédiger un mémoire. Quant à la manière dont il paierait son travail, il fit des promesses d'autant meilleures qu'elles n'étaient pas précises. Deslauriers s'en revint chez Frédéric et lui rapporta la conférence. De plus, il avait vu Mme Dambreuse au bas de l'escalier, comme il sortait. « Je t'en fais mes compliments, ça prelote !» Puis ils causèrent de l'élection. Il y avait quelque chose à inventer. 3 jours après, Deslauriers reparut avec une feuille d'écriture destinée aux journaux et qui était une lettre familière où M. Dambreuse approuvait la candidature de leur ami. Soutenue par un conservateur et prônée par un rouge, elle devait réussir. Comment le capitaliste signait-il une pareille élucubration? L'avocat, sans le moindre embarras, de lui-même avait été la montrer à Mme Dambreuse, qui, la trouvant fort bien, s'était chargée du reste. Cette démarche surprit Frédéric. Il l'approuva cependant. Puis, comme Deslauriers s'aboucherait avec M. Roch, il lui conta sa position vis-à-vis de Louise. « Dis-leur tout ce que tu voudras, que mes affaires sont troubles. Je les arrangerai. Elle est assez jeune pour attendre. » Deslauriers partit, et Frédéric se considéra comme un homme très fort. Il éprouvait d'ailleurs un assouvissement, une satisfaction profonde. Sa joie de posséder une femme riche n'était gâtée par aucun contraste. Le sentiment s'harmonisait avec le milieu. Sa vie, maintenant, avait des douceurs partout. La plus exquise, peut-être, était de contempler Mme Dambreuse, entre plusieurs personnes dans son salon. La convenance de ses manières le faisait rêver à d'autres attitudes. Pendant qu'elle causait d'un ton froid, il se rappelait ses mots d'amour balbutiés. Tous les respects pour sa vertu le délectaient comme un hommage retournant vers lui. Et il avait parfois des envies de s'écrier « Mais je la connais mieux que vous, elle est à moi !» Leur liaison ne tarda pas à être une chose convenue, acceptée. Madame Dambreuse, durant tout l'hiver, traîna Frédéric dans le monde. Il arrivait presque toujours avant elle, et il la voyait entrer, les bras nus, l'éventail à la main, des perles dans les cheveux. Elle s'arrêtait sur le seuil, le linteau de la porte l'entourait comme un cadre, et elle avait un léger mouvement d'indécision en clignant les paupières, pour découvrir s'il était là. Elle le ramenait dans sa voiture. La pluie fouettait les vasistas, les passants tels que des ombres s'agitaient dans la boue. Et, serrés l'un contre l'autre, ils apercevaient tout cela, confusément, avec un dédain tranquille. Sous des prétextes différents, il restait encore une bonne heure dans sa chambre. C'était par ennui, surtout, que Mme Dambreuse avait cédé. Mais cette dernière épreuve ne devait pas être perdue. Elle voulait un grand amour, et elle se mit à le combler d'adulations et de caresses. Elle lui envoyait des fleurs, elle lui fit une chaise en tapisserie, elle lui donna un porte-cigare, une écritoire, 1000 petites choses d'un usage quotidien pour qu'il n'eût pas une action indépendante de son souvenir. Ses prévenances le charmèrent d'abord, et bientôt lui parurent toutes simples. Elle montait dans un fiacre, le renvoyait à l'entrée d'un passage, sortait par l'autre bout. Puis, se glissant le long des murs, avec un double voile sur le visage, Elle atteignait la rue où Frédéric, en sentinelle, lui prenait le bras, vivement, pour la conduire dans sa maison. Ses deux domestiques se promenaient, le portier faisait des courses. Elle jetait les yeux tout alentour, rien à craindre, et elle poussait comme un soupir d'exilé qui revoit sa patrie. La chance les enhardit. Leurs rendez-vous se multiplièrent. Un soir même, elle se présenta tout à coup en grande toilette de bal. Ses surprises pouvaient être dangereuses. Il la blâma de son imprudence. Elle lui déplut du reste. Son corsage ouvert découvrait trop sa poitrine maigre. Il reconnut alors ce qu'il s'était caché, la désillusion de ses sens. Il n'en feignait pas moins de grandes ardeurs. Mais pour les ressentir, il lui fallait évoquer l'image de Rosanette ou de Madame Arnaud. Cette atrophie sentimentale lui laissait la tête entièrement libre, et plus que jamais, il ambitionnait une haute position dans le monde. Puisqu'il avait un marchepied pareil, c'était bien le moins qu'il s'en servît. Vers le milieu de janvier, un matin, Sénécal entra dans son cabinet, et, à son exclamation d'étonnement, répondit qu'il était secrétaire de Deslauriers. Il lui apportait même une lettre. Elle contenait de bonnes nouvelles et le blâmait cependant de sa négligence. Il fallait venir là-bas. Le futur député dit qu'il se mettrait en route le surlendemain. Sénécal n'exprima pas d'opinion sur cette candidature. Il parla de sa personne et des affaires du pays. Si lamentable qu'elles fussent, elles le réjouissaient, car on marchait au communisme. D'abord, l'administration y menait d'elle-même, puisque chaque jour, il y avait plus de choses régies par le gouvernement. Quant à la propriété, la Constitution de 48, malgré ses faiblesses, ne l'avait pas ménagée. Au nom de l'utilité publique, l'État pouvait prendre désormais ce qu'il jugeait lui convenir. Sénécal se déclara pour l'autorité. Et Frédéric aperçut dans ses discours l'exagération de ses propres paroles à Deslauriers. Le républicain tonna même contre l'insuffisance des masses. Robespierre, en défendant le droit du petit nombre, amena Louis XVI devant la Convention nationale et sauva le peuple. La fin des choses les rend légitimes. La dictature est quelquefois indispensable. Vive la tyrannie, pourvu que le tyran fasse le bien. Leur discussion dura longtemps, et comme il s'en allait, Sénécal avoua, c'était le but de sa visite peut-être, que Deslauriers s'impatientait beaucoup du silence de M. d'Ambreuse. Mais M. d'Ambreuse était malade. Frédéric le voyait tous les jours, sa qualité d'intime le faisait admettre près de lui. La révocation du général Changarnier avait ému extrêmement le capitaliste. Le soir même, il fut pris d'une grande chaleur dans la poitrine, avec une oppression à ne pouvoir se tenir couché. Des sangsues amenèrent un soulagement immédiat. La toux sèche disparut, la respiration devint plus calme. Et 8 jours après, il dit en avalant un bouillon « Ah, ça va mieux, mais j'ai manqué faire le grand voyage. » « Pas sans moi !» s'écria Madame d'Ambreuse, notifiant par ce mot qu'elle n'aurait pu lui survivre. Au lieu de répondre, il étala sur elle et sur son amant un singulier sourire, où il y avait à la fois de la résignation, de l'indulgence, de l'ironie, et même, comme une pointe, un sous-entendu presque gai. Frédéric voulut partir pour Nogent. Madame d'Ambreuse s'y opposa. Et il défaisait et refaisait tour à tour ses paquets, selon les alternatives de la maladie. Tout à coup, M. d'Ambreuse cracha le sang abondamment. Les princes de la science, consultés, n'avisèrent à rien de nouveau. Ses jambes enflaient et la faiblesse augmentait. Il avait témoigné plusieurs fois le désir de voir Cécile, qui était à l'autre bout de la France, avec son mari, nommé receveur depuis un mois. Il ordonna expressément qu'on la fît venir. Madame d'Ambreuse écrivit 3 lettres et les lui montra. Sans se fier même à la religieuse, elle ne le quittait pas d'une seconde, ne se couchait plus. Les personnes qui se faisaient inscrire chez le concierge s'informaient d'elle avec admiration, et les passants étaient saisis de respect devant la quantité de paille qu'il y avait dans la rue sous les fenêtres. Le 12 février, à 5 heures, une hémophtysie effrayante se déclara. Le médecin de garde dit le danger. On courut vite chez un prêtre. Pendant la confession de M. d'Ambreuse, Madame le regardait de loin, curieusement. Après quoi, le jeune docteur posa un vésicatoire et attendit. La lumière des lampes, masquée par des meubles, éclairait la chambre inégalement. Frédéric et Madame d'Ambreuse, au pied de la couche, observaient le moribond. Dans l'embrasure d'une croisée, le prêtre et le médecin causaient à demi-voix. La bonne sœur, à genoux, marmottait des prières. Enfin, un râle s'éleva. Les mains se refroidissaient, la face commençait à pâlir. Quelquefois, il tirait tout à coup une aspiration énorme. Elles devinrent de plus en plus rares. Deux ou trois paroles confuses lui échappèrent. Il exhala un petit souffle en même temps qu'il tournait ses yeux, et la tête retomba de côté sur l'oreiller. Tous, pendant une minute, restèrent immobiles. Madame d'Ambreuse s'approcha, et sans effort, avec la simplicité du devoir, elle lui ferma les paupières. Puis elle écarta les deux bras, en se tordant la taille comme dans un spasme d'un désespoir contenu, et sortit de l'appartement, appuyée sur le médecin et la religieuse. Un quart d'heure après, Frédéric monta dans sa chambre. On y sentait une odeur indéfinissable, émanation des choses délicates qui l'emplissaient. Au milieu du lit, une robe noire s'étalait, tranchant sur le couvre-pied rose. Madame d'Ambreuse était au coin de la cheminée, debout. Sans lui supposer de violents regrets, il la croyait un peu triste, et d'une voix dolente, « Tu souffres ?»«
Moi ? Non, pas du tout. »
Comme elle se retournait, elle aperçut la robe, l'examina, puis elle lui dit de ne pas se gêner.
« Fume si tu veux, tu es chez moi. »
Et avec un grand soupir, « Ah, Sainte Vierge, quel débarras !» Frédéric fut étonné de l'exclamation. Il reprit en lui baisant la main,
« On était libres, pourtant. »
Cette allusion à l'aisance de leurs amours parut blesser Madame d'Ambreuse.
« Et tu ne sais pas les services que je lui rendais, ni dans quelles angoisses j'ai vécu. »«
Comment ? » ?»«
Mais oui ! Était-ce une sécurité que d'avoir toujours près de soi cette bâtarde, une enfant introduite dans la maison au bout de 5 ans de ménage, et qui, sans moi bien sûr, l'aurait amenée à quelques sottises ?»
Alors elle expliqua ses affaires. Il s'était marié sous le régime de la séparation. Son patrimoine était de 300 000 francs, Monsieur d'Ambreuse, par leur contrat, lui avait assuré, en cas de survivance, 15 000 livres de rente avec la propriété de l'hôtel. Mais peu de temps après, il avait fait un testament où il lui donnait toute sa fortune. Et elle l'évaluait, autant qu'il était possible de le savoir maintenant, à plus de 3 millions. Frédéric ouvrit de grands yeux.
« Ça en valait la peine, n'est-ce pas ? J'y ai contribué, du reste. » C'était mon bien que je défendais. Cécile m'aurait dépouillé, injustement.
Pourquoi n'est-elle pas venue voir son père ? Dit Frédéric. À cette question, Madame d'Ambreuse le considéra, puis, d'un ton sec,
« Je n'en sais rien. Faute de cœur, sans doute.
Oh, je la connais. Aussi, elle n'aura pas de moi une obole. »
Elle n'était guère gênante, du moins depuis son mariage.
Son mariage ! Fit en ricanant Madame d'Ambreuse. Et elle s'en voulait d'avoir trop bien traité cette pérore-là, qui était jalouse, intéressée, hypocrite. Tous les défauts de son père. Elle le dénigrait de plus en plus. Personne d'une fausseté aussi profonde, impitoyable d'ailleurs, dur comme un caillou, un mauvais homme, un mauvais homme.
Il échappe des fautes, même aux plus sages.
Madame d'Ambreuse venait d'en faire une par ce débordement de haine. Frédéric, en face d'elle, dans une bergère, réfléchissait, scandalisé.
Elle se leva, se mit doucement sur ses genoux. « Toi seul est bon, il n'y a que toi que j'aime. » En le regardant, son cœur s'amollit. Une réaction nerveuse lui amena des larmes aux paupières et elle murmura « Veux-tu m'épouser ?» Il crut d'abord n'avoir pas compris. Cette richesse l'étourdissait. Elle répéta plus haut « Veux-tu m'épouser ?» Enfin, il dit en souriant « Tu en doutes ?» Puis une pudeur le prit, et pour faire au défunt une sorte de réparation, il s'offrit à le veiller lui-même. Mais comme il avait honte de ce pieux sentiment, il ajouta d'un ton dégagé « Ce serait peut-être plus convenable. »«
Oui, peut-être bien, » dit-elle, « à cause des domestiques. »
On avait tiré le lit complètement hors de l'alcôve. La religieuse était au pied, et au chevet se tenait un prêtre, un autre, un grand homme maigre, l'air espagnol et fanatique. Sur la table de nuit, couverte d'une serviette blanche, trois flambeaux brûlaient. Frédéric prit une chaise et regarda le mort. Son visage était jaune comme de la paille. Un peu d'écume sanguinolente marquait les coins de sa bouche. Il avait un foulard autour du crâne, un gilet de tricot et un crucifix d'argent sur la poitrine, entre ses bras croisés. Elle était finie, cette existence pleine d'agitation. Combien n'avait-il pas fait de courses dans les bureaux, aligné de chiffres, tripoté d'affaires, entendu de rapports. Que de boniments, de sourires, de courbettes. Car il avait acclamé Napoléon, les Cosaques, Louis XVIII, 1830, les ouvriers, tous les régimes, chérissant le pouvoir d'un tel amour qu'il aurait payé pour se vendre. Mais il laissait le domaine de la Fortelle, trois manufactures en Picardie, le bois de Crancé dans l'Yonne, une ferme près d'Orléans, des valeurs mobilières considérables. Frédéric fit ainsi la récapitulation de sa fortune. Et elle allait, pourtant, lui appartenir. Il songea d'abord à ce qu'on dirait, à un cadeau pour sa mère, à ses futurs attelages, à un vieux cocher de sa famille dont il voulait faire le concierge. La livrée ne serait plus la même, naturellement. Il prendrait le grand salon comme cabinet de travail. Rien n'empêchait, en abattant trois murs, d'avoir au second étage une galerie de tableaux. Il y avait moyen peut-être d'organiser en bas une salle de bain turque. Quant au bureau de M. d'Ambreuse, pièce déplaisante, à quoi pouvait-elle servir? Le prêtre qui venait à se moucher, ou la bonne sœur arrangeant le feu, interrompait brutalement ses imaginations. Mais la réalité les confirmait. Le cadavre était toujours là. Ses paupières s'étaient rouvertes et les pupilles, bien que noyées dans des ténèbres visqueuses, avaient une expression énigmatique, intolérable. Frédéric croyait y voir comme un jugement porté sur lui. Et il sentait presque un remords, car il n'avait jamais eu à se plaindre de cet homme, qui, au contraire, « Allons donc, un vieux misérable !» Et il le considérait de plus près, pour se raffermir, en lui criant mentalement « Eh bien, quoi, est-ce que je t'ai tué ?» Cependant, le prêtre lisait son bréviaire. La religieuse, immobile, sommeillait. Les mèches des trois flambeaux s'allongeaient. On entendit, pendant 2 heures, le roulement sourd des charrettes défilant vers les halles. Les carreaux blanchirent, un fiacre passa, puis une compagnie d'ânesses qui trottinait sur le pavé, et des coups de marteau, des cris de vendeurs ambulants, des éclats de trompettes. Tout déjà se confondait dans la grande voie de Paris qui s'éveille. Frédéric se mit en course. Il se transporta premièrement à la mairie pour faire la déclaration. Puis, quand le médecin des morts eut donné un certificat, il revint à la mairie dire quel cimetière la famille choisissait et pour s'entendre avec le bureau des pompes funèbres. L'employé exhiba un dessin et un programme, l'un indiquant les diverses classes d'enterrement, l'autre le détail complet du décor. Voulait-on un char avec galerie ou un char avec panache, des tresses aux chevaux, des aigrettes aux valets, des initiales ou un blason, des lampes funèbres, un homme pour porter les honneurs et combien de voitures ? Frédéric fut large. Madame d'Ambreuse tenait à ne rien ménager. Puis il se rendit à l'église. Le vicaire des convois commença par blâmer l'exploitation des pompes funèbres. Ainsi, l'officier pour les prières d'honneur était vraiment inutile. Beaucoup de cierges valaient mieux. On convint d'une messe basse relevée de musique. Frédéric signa ce qui était convenu, avec obligation solidaire de payer tous les frais. Il alla ensuite à l'hôtel de ville pour l'achat du terrain. Une concession de 2 mètres en longueur sur 1 de largeur coûtait 500 francs. Était-ce une concession mi-séculaire ou perpétuelle ?
Oh, perpétuelle ! Dit Frédéric.
Il prenait la chose au sérieux, se donnait du mal. Dans la cour de l'hôtel, un marbrier l'attendait pour lui montrer des devis et plans de tombeaux grecs, égyptiens, mauresques. Mais l'architecte de la maison en avait déjà conféré avec madame, et sur la table, dans le vestibule, il y avait toutes sortes de prospectus relatifs au nettoyage des matelas, à la désinfection des chambres, à divers procédés d'embaumement. Après son dîner, il retourna chez le tailleur pour le deuil des domestiques, et il dut faire une dernière course, car il avait commandé des gants de castor, et c'était des gants de filoselle qui convenaient. Quand il arriva le lendemain à 10 heures, le grand salon s'emplissait de monde. Et presque tous, en s'abordant d'un air mélancolique, disaient « Moi qui l'ai encore vu il y a un mois, mon Dieu, c'est notre sort à tous. Oui, mais tâchons que ce soit le plus tard possible. » Alors on poussait un petit rire de satisfaction, et même on engageait des dialogues parfaitement étrangers à la circonstance. Enfin, le maître des cérémonies, en habit noir à la française et culotte courte, avec manteau, pleureuse, brette au côté et tricorne sous le bras, articula, en saluant les mots d'usage, « Messieurs, quand il vous fera plaisir. » On partit. C'était jour de marché aux fleurs sur la place de la Madeleine. Il faisait un temps clair et doux, et la brise, qui secouait un peu les baraques de toile, gonflait par les bords l'immense drap noir accroché sur le portail. L'écusson de M. d'Ambreuse, occupant un carré de velours, s'y répétait 3 fois. Il était de sable au sénestrochère d'or, à point fermé, ganté d'argent, avec couronne de comte, et cette devise « par toute voie ». Les porteurs montèrent jusqu'au haut de l'escalier le lourd cercueil, et l'on entra. Les 6 chapelles, l'hémicycle et les chaises étaient tendues de noir. Le catafalque au bas du chœur formait avec ses grands cierges un seul foyer de lumière jaune. Aux 2 angles, sur des candélabres, des flammes d'esprit de vin brûlaient. Les plus considérables prirent place dans le sanctuaire, les autres dans la nef, et l'office commença. À part quelques-uns, l'ignorance religieuse de tous était si profonde que le maître des cérémonies, de temps à autre, leur faisait signe de se lever, de s'agenouiller, de se rasseoir. L'orgue et 2 contrebasses alternaient avec les voix. Dans les intervalles de silence, on entendait le marmottement du prêtre à l'autel. Puis la musique et les chants reprenaient. Un jour mat tombait des 3 coupoles. Mais la porte ouverte envoyait horizontalement comme un fleuve de clarté blanche qui frappait toutes les têtes nues. Et dans l'air, à mi-hauteur du vaisseau, flottait une ombre, pénétrée par le reflet des ors décorant la nervure des pendentifs et le feuillage des chapiteaux. Frédéric, pour se distraire, écouta le dillet ciré. Il considérait les assistants, tâchez de voir les peintures trop élevées qui représentent la vie de Madeleine. Heureusement, Pellerin vint se mettre près de lui et commença tout de suite, à propos de fresques, une longue dissertation. La cloche tinta, on sortit de l'église. Le corbillard, orné de draperies pendantes et de hauts plumets, s'achemina vers le Père Lachaise, tiré par 4 chevaux noirs ayant des tresses dans la crinière, des panaches sur la tête et qu'enveloppaient jusqu'aux sabots de larges caparaçons brodés d'argent. Leur cocher, en bottes à l'écuyère, portait un chapeau à 3 cornes avec un long crêpe retombant. Les cordons étaient tenus par 4 personnages. Un questeur de la Chambre des députés, un membre du Conseil général de l'Aube, un délégué des Houilles et Fumichon comme ami. La calèche du défunt et 12 voitures de deuil suivaient. Les conviés par derrière emplissaient le milieu du boulevard. Pour voir tout cela, les passants s'arrêtaient. Des femmes, leurs marmots entre les bras, montaient sur des chaises, et des gens qui prenaient des chopes dans les cafés apparaissaient aux fenêtres, une queue de billard à la main. La route était longue, et comme dans les repas de cérémonie où l'on est réservé d'abord, puis expansif, la tenue générale se relâcha bientôt. On ne causait que du refus d'allocation fait par la Chambre au président. M. Piscatori s'était montré trop acerbe. Montalembert, magnifique, comme d'habitude. Et M. Chambol, Pidou, Creton, enfin toute la commission, aurait dû suivre peut-être l'avis de M. Quentin Bochard et Dufour. Ces entretiens continuèrent dans la rue de la Roquette, bordée par des boutiques, où l'on ne voit que des chaînes en verre de couleur et des rondelles noires couvertes de dessins et de lettres d'or, ce qui les fait ressembler à des grottes pleines de stalactites et à des magasins de faïence. Mais devant la grille du cimetière, tout le monde instantanément se tut. Les tombes se levaient au milieu des arbres, colonnes brisées, pyramides, temples, dolmens, obélisques, caveaux étrusques à portes de bronze. On apercevait dans quelques-uns des espèces de boudoirs funèbres, avec des fauteuils rustiques et des pliants. Des toiles d'araignées pendaient comme des haillons aux chaînettes des urnes. Et de la poussière couvrait les bouquets de rubans de satin et les crucifix. Partout, entre les balustres, sur les tombeaux, des couronnes d'immortels et des chandeliers, des vases, des fleurs, des disques noirs rehaussés de lettres d'or, des statuettes de plâtre, petits garçons et petites demoiselles ou petits anges tenus en l'air par un fil de laiton. Plusieurs mêmes ont un toit de zinc sur la tête. D'énormes câbles en verre filé, noir, blanc et azur, descendent du haut des stèles jusqu'au pied des dalles, avec de longs replis, comme des boas. Le soleil, frappant dessus, les faisait scintiller entre les croix de bois noir. Et le corbillard s'avançait dans les grands chemins, qui sont pavés comme les rues d'une ville. De temps à autre, les essieux claquaient. Des femmes à genoux, la robe traînant dans l'herbe, parlaient doucement aux morts. Des lumignons blanchâtres sortaient de la verdure des ifs. C'étaient des offrandes abandonnées, des débris que l'on brûlait. La fosse de M. d'Ambreuse était dans le voisinage de Manuel et de Benjamin Constant. Le terrain dévale en cet endroit par une pente abrupte. On a sous les pieds des sommets d'arbres verts. Plus loin, des cheminées de pompes à feu, puis toute la grande ville. Frédéric put admirer le paysage pendant qu'on prononçait les discours. Le premier fut au nom de la Chambre des députés, le deuxième au nom du Conseil général de l'Aube, le troisième au nom de la Société houillère de Saône-et-Loire, le quatrième au nom de la Société d'agriculture de Lyon, et il y en eut un autre au nom d'une société philanthropique. Enfin, on s'en allait lorsqu'un inconnu se mit à lire un 6e discours au nom de la Société des antiquaires d'Amiens. Et tous profitèrent de l'occasion pour tonner contre le socialisme, dont M. d'Ambreuse était mort victime. C'était le spectacle de l'anarchie et son dévouement à l'ordre qui avait abrégé ses jours. On exalta ses lumières, sa probité, sa générosité et même son mutisme comme représentant du peuple, car s'il n'était pas orateur, il possédait en revanche ses qualités solides, 1000 fois préférables, etc. avec tous les mots qu'il faut dire. Fin prématurée, regrets éternels, l'autre patrie, adieu, ou plutôt non, au revoir. La terre, mêlée de cailloux, retomba, et il ne devait plus en être question dans le monde. On en parla encore un peu en descendant le cimetière, et on ne se gênait pas pour l'apprécier. Hussonnet, qui devait rendre compte de l'enterrement dans les journaux, reprit même en blague tous les discours, car enfin le bonhomme d'Ambreuse avait été un des potes de vinistes les plus distingués du dernier règne. Puis les voitures de deuil reconduisirent les bourgeois à leurs affaires. La cérémonie n'avait pas duré trop longtemps. On s'en félicitait. Frédéric, fatigué, rentra chez lui. Quand il se présenta le lendemain à l'hôtel d'Ambreuse, on l'avertit que madame travaillait en bas, dans le bureau. Les cartons, les tiroirs étaient ouverts, pêle-mêle, les livres de compte jetés de droite et de gauche. Un rouleau de paperasse ayant pour titre « Recouvrement désespéré » traînait par terre. Il manqua tomber dessus et le ramassa. Madame d'Ambreuse disparaissait, ensevelie dans le grand fauteuil. « Eh bien, où êtes-vous donc? Qu'y a-t-il ? » Elle se leva d'un bond. « Ce qu'il y a ? Je suis ruinée ! Ruinée, entends-tu ? » Monsieur Adolphe Langlois, le notaire, l'avait fait venir en son étude et lui avait communiqué un testament écrit par son mari avant leur mariage. Il léguait tout à Cécile, et l'autre testament était perdu. Frédéric devint très pâle. Sans doute avait-elle mal cherché. « Mais regarde donc !» dit madame d'Ambreuse en lui montrant l'appartement. Les deux coffres-forts bâillaient, défoncés à coups de merlin, et elle avait retourné le pupitre, fouillé les placards, secoué les paillassons. Quand tout à coup, poussant un cri aigu, elle se précipita dans un angle où elle venait d'apercevoir une petite boîte à serrure de cuivre. Elle l'ouvrit. Rien. Le misérable! Moi qui l'ai soigné avec tant de dévouement! Puis elle éclata en sanglots. « Il est peut-être ailleurs !» dit Frédéric. « Eh non, il était là, dans ce coffre-fort. Je l'ai vu dernièrement. Il est brûlé, j'en suis certaine. » Un jour, au commencement de sa maladie, M. d'Ambreuse était descendu pour donner des signatures. « C'est alors qu'il aura fait le coup !» Et elle retomba sur une chaise, anéantie. Une mère en deuil n'est pas plus lamentable près d'un berceau vide que ne l'était Madame d'Ambreuse devant les coffres-forts béants. Enfin, sa douleur, malgré la bassesse du motif, semblait tellement profonde qu'il tâcha de la consoler, en lui disant qu'après tout, elle n'était pas réduite à la misère. « Mais c'est la misère, puisque je ne peux pas t'offrir une grande fortune !» Elle n'avait plus que 30 000 livres de rente, sans compter l'hôtel, qui en valait de 18 à 20, peut-être. Bien que ce fût de l'opulence pour Frédéric, il n'en ressentait pas moins une déception. Adieu ses rêves et toute la grande vie qu'il aurait menée. L'honneur le forçait à épouser madame d'Ambreuse. Il réfléchit une minute, puis, d'un air tendre, « J'aurai toujours ta personne. » Elle se jeta dans ses bras, et il la serra contre sa poitrine avec un attendrissement où il y avait un peu d'admiration pour lui-même. Madame d'Ambreuse, dont les larmes ne coulaient plus, releva sa figure, toute rayonnante de bonheur, et, lui prenant la main, « Ah, je n'ai jamais douté de toi, j'y comptais !» Cette certitude anticipée de ce qu'il regardait comme une belle action déplut au jeune homme. Puis elle l'emmena dans sa chambre, et ils firent des projets. Frédéric devait songer maintenant à se pousser. Elle lui donna même sur sa candidature d'admirables conseils. Le premier point était de savoir 2 ou 3 phrases d'économie politique. Il fallait prendre une spécialité, comme les haras, par exemple, écrire plusieurs mémoires sur une question d'intérêt local, avoir toujours à sa disposition des bureaux de poste ou de tabac, rendre une foule de petits services. Monsieur d'Ambreuse s'était montré là-dessus un vrai modèle. Ainsi, une fois, à la campagne, il avait fait arrêter son char à banc plein d'amis, devant l'échoppe d'un savetier, avait pris pour ses hôtes 12 paires de chaussures et pour lui des bottes épouvantables, qu'il eut même l'héroïsme de porter durant 15 jours. Cette anecdote les rendit gais. Elle en conta d'autres, et avec un revif de grâce, de jeunesse et d'esprit. Elle approuva son idée d'un voyage immédiat à nos gens. Leurs adieux furent tendres. Puis, sur le seuil, elle murmura encore une fois « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?»« Éternellement, » répondit-il. Un commissionnaire l'attendait chez lui avec un mot au crayon, le prévenant que Rosanette allait accoucher. Il avait eu tant d'occupations depuis quelques jours qu'il n'y pensait plus. Elle s'était mise dans un établissement spécial à Chaillot. Frédéric prit un fiacre et partit. Au coin de la rue de Marbeuf, il lut sur une planche en grosses lettres « Maison de santé et d'accouchement, tenue par Madame Alessandri, sage-femme de première classe, ex-élève de la maternité, auteur de divers ouvrages, etc. » Puis, au milieu de la rue, sur la porte, une petite porte bâtarde, l'enseigne répétait, sans le mot accouchement, « Maison de santé de Madame Alessandri », avec tous ses titres. Frédéric donna un coup de marteau. Une femme de chambre, à tournure de soubrette, l'introduisit dans le salon, ornée d'une table en acajou, de fauteuils en velours grenat et d'une pendule sous globe. Presque aussitôt, Madame parut. C'était une grande brune de 40 ans, la taille mince, de beaux yeux, l'usage du monde. Elle apprit à Frédéric l'heureuse délivrance de la mère et le fit monter dans sa chambre. Rosanette se mit à sourire ineffablement. Et, comme submergée sous les flots d'amour qui l'étouffaient, elle dit d'une voix basse « Un garçon, là, là !» en désignant près de son lit une barcelonnette. Il écarta les rideaux et aperçut au milieu des linges quelque chose d'un rouge jaunâtre, extrêmement ridé, qui sentait mauvais et vagissait. « Embrasse-le !» Il répondit, pour cacher sa répugnance, « Mais j'ai peur de lui faire mal. »« Non, non !» Alors il baisa du bout des lèvres son enfant. « Comme il te ressemble !» Et de ses deux bras faibles, elle se suspendit à son cou, avec une effusion de sentiments qu'il n'avait jamais vus. Le souvenir de Madame d'Ambreuse lui revint. Il se reprocha comme une monstruosité de trahir ce pauvre être qui aimait et souffrait dans toute la franchise de sa nature. Pendant plusieurs jours, il lui tint compagnie jusqu'au soir. Elle se trouvait heureuse dans cette maison discrète. Les volets de la façade restaient même constamment fermés. Sa chambre, tendue en perce claire, donnait sur un grand jardin. Madame Alessandri, dont le seul défaut était de citer comme intime les médecins illustres, l'entourait d'attention. Ses compagnes, presque toutes des demoiselles de la province, s'ennuyaient beaucoup, n'ayant personne qui vint les voir. Rosanette s'aperçut qu'on l'enviait et le dit à Frédéric avec fierté. Il fallait parler bas, cependant. Les cloisons étaient minces et tout le monde se tenait aux écoutes, malgré le bruit continuel des pianos. Il allait enfin partir pour Nogent quand il reçut une lettre de Delaurier. Deux candidats nouveaux se présentaient, l'un conservateur, l'autre rouge. Un troisième, quel qu'il fût, n'avait pas de chance. C'était la faute de Frédéric, il avait laissé passer le bon moment. Il aurait dû venir plus tôt, se remuer. « On ne t'a même pas vu au comice agricole !» L'avocat le blâmait de n'avoir aucune attache dans les journaux. « Ah, si tu avais suivi autrefois mes conseils, si nous avions une feuille publique à nous !» Il insistait là-dessus. Du reste, beaucoup de personnes qui auraient voté en sa faveur, par considération pour M. d'Ambreuse, l'abandonneraient maintenant. Delaurier était de cela. N'ayant plus rien à attendre du capitalisme, il lâchait son protégé. Frédéric porta sa lettre à Madame d'Ambreuse. « Tu n'as donc pas été à Nogent ? » dit-elle. « Pourquoi ? c'est que j'ai vu des lauriers il y a 3 jours. » Sachant la mort de son mari, l'avocat était venu rapporter des notes sur les houilles et lui offrir ses services comme homme d'affaires. Cela parut étrange à Frédéric. Mais que faisait son ami là-bas? Madame d'Ambreuse voulut savoir l'emploi de son temps depuis leur séparation. « J'ai été malade, » répondit-il. « Tu aurais dû me prévenir, au moins. » « Oh, cela n'en valait pas la peine. » D'ailleurs, il avait eu une foule de dérangements, des rendez-vous, des visites. Il mena dès lors une existence double, couchant religieusement chez la maréchale et passant l'après-midi chez Madame d'Ambreuse, si bien qu'il lui restait à peine, au milieu de la journée, 1 heure de liberté. L'enfant était à la campagne, à Andilly. On allait le voir toutes les semaines. La maison de la nourrice se trouvait sur la hauteur du village, au fond d'une petite cour sombre comme un puits, avec de la paille par terre, des poules, ça et là, une charrette à légumes sous le hangar. Rosanette commençait par baiser frénétiquement son poupon, et, prise d'une sorte de délire, allait et venait, essayait de traire la chèvre, mangeait du gros pain, aspirait l'odeur du fumier, voulait en mettre un peu dans son mouchoir. Puis il faisait de grandes promenades. Elle entrait chez les pépiniéristes, arrachait les branches de lilas qui pendaient en dehors des murs, criait « Hue, bourriquet !» aux ânes traînant une carriole, s'arrêtait à contempler par la grille l'intérieur des beaux jardins. Ou bien la nourrice prenait l'enfant, on le posait à l'ombre sous un noyer, et les deux femmes débitaient pendant des heures d'assommantes niaiseries. Frédéric, près d'elle, contemplait les carrés de vignes sur les pentes du terrain, avec la touffe d'un arbre de place en place, les sentiers poudreux, pareils à des rubans grisâtres, les maisons étalant dans la verdure des taches blanches et rouges, et quelquefois la fumée d'une locomotive allongeait horizontalement, au pied des collines couvertes de feuillage, comme une gigantesque plume d'autruche dont le bout léger s'envolait. Puis, ses yeux retombaient sur son fils. Il se le figurait jeune homme, il en ferait son compagnon. Mais ce serait peut-être un sot, un malheureux, à coup sûr. L'illégalité de sa naissance l'opprimerait toujours. Mieux aurait valu pour lui ne pas naître. Et Frédéric murmurait « Pauvre enfant !» le cœur gonflé d'une incompréhensible tristesse. Souvent, il manquait le dernier départ. Alors Madame d'Ambreuse le grondait de son inexactitude, il lui faisait une histoire. Il fallait en inventer aussi pour Rosanette. Elle ne comprenait pas à quoi il employait toutes ses soirées, et quand on envoyait chez lui, il n'y était jamais. Un jour, comme il s'y trouvait, elles apparurent presque à la fois. Il fit sortir la maréchale et cacha Madame d'Ambreuse en disant que sa mère allait arriver. Bientôt, ses mensonges le divertirent. Il répétait à l'une le serment qu'il venait de faire à l'autre, leur envoyait 2 bouquets semblables, leur écrivait en même temps, puis établissait entre elles des comparaisons. Il y en avait une 3e toujours présente à sa pensée. L'impossibilité de la voir le justifiait de ses perfidies, qui avivaient le plaisir en y mettant de l'alternance. Et plus il avait trompé n'importe laquelle des deux, plus elle l'aimait, comme si leurs amours se fussent échauffés réciproquement, et que, dans une sorte d'émulation, chacune eût voulu lui faire oublier l'autre. « Admire ma confiance !» lui dit un jour Madame d'Ambreuse en dépliant un papier où on la prévenait que M. Moreau vivait conjugalement avec une certaine Rose Bron. « Est-ce la demoiselle des courses, par hasard ?»
« Quelle absurdité !» reprit-il.
« Laisse-moi voir. » La lettre, écrite en caractère romain, n'était pas signée. Madame d'Ambreuse, au début, avait toléré cette maîtresse qui couvrait leur adultère. Dans sa passion devenant plus forte, elle avait exigé une rupture, chose faite depuis longtemps, selon Frédéric. Et quand il eut fini ses protestations, elle répliqua, tout en clignant ses paupières où brillait un regard pareil à la pointe d'un stylet sous de la mousseline. « Eh bien, et l'autre ? Quelle autre ?
La femme du faïencier.
Il leva les épaules dédaigneusement. Elle n'insista pas. Mais un mois plus tard, comme il parlait d'honneur et de loyauté, et qu'il vantait la sienne, d'une manière incidente, par précaution, elle lui dit « C'est vrai, tu es honnête, tu n'y retournes plus. » Frédéric, qui pensait à la maréchale, balbutia « Où donc ?»«
Chez Madame Arnoux. »
Il la supplia de lui avouer d'où elle tenait ce renseignement. C'était par sa couturière en second, Madame Regimbard. Ainsi, elle connaissait sa vie, et lui ne savait rien de la sienne. Cependant, il avait découvert dans son cabinet de toilette la miniature d'un monsieur à longue moustache. Était-ce le même sur lequel on lui avait conté autrefois une vague histoire de suicide ? Mais il n'existait aucun moyen d'en savoir davantage. À quoi bon, du reste ? Les cœurs des femmes sont comme ces petits meubles à secret, pleins de tiroirs emboîtés les uns dans les autres. On se donne du mal, on se casse les ongles, et on trouve au fond quelques fleurs desséchées, des brins de poussière, ou le vide. Et puis, il craignait peut-être d'en trop apprendre. Elle lui faisait refuser les invitations où elle ne pouvait se rendre avec lui, le tenait à ses côtés, avait peur de le perdre. Et malgré cette union chaque jour plus grande, tout à coup des abîmes se découvraient entre eux, à propos de choses insignifiantes, l'appréciation d'une personne, d'une œuvre d'art. Elle avait une façon de jouer du piano, correcte et dure. Son spiritualisme, Madame d'Ambreuse croyait à la transmigration des âmes dans les étoiles, ne l'empêchait pas de tenir sa caisse admirablement. Elle était hautaine avec ses gens, ses yeux restaient secs devant les haillons des pauvres. Un égoïsme ingénu éclatait dans ses locutions ordinaires. « Qu'est-ce que cela me fait ? Je serai bien bonne. Est-ce que j'ai besoin ?» Et mille petites actions inanalysables, odieuses. Elle aurait écouté derrière les portes. Elle devait mentir à son confesseur. Par esprit de domination, elle voulut que Frédéric l'accompagnât le dimanche à l'église. Il obéit et porta le livre. La perte de son héritage l'avait considérablement changé. Ces marques d'un chagrin qu'on attribuait à la mort de M. d'Ambreuse la rendaient intéressante, et, comme autrefois, elle recevait beaucoup de monde. Depuis l'insuccès électoral de Frédéric, elle ambitionnait pour eux deux une légation en Allemagne. Aussi, la première chose à faire était de se soumettre aux idées régnantes. Les uns désiraient l'Empire, d'autres les Orléans, d'autres le comte de Chambord. Mais tous s'accordaient sur l'urgence de la décentralisation, et plusieurs moyens étaient proposés, tels que ceux-ci. Couper Paris en une foule de grandes rues afin d'y établir des villages, transférer à Versailles le siège du gouvernement, mettre à Bourges les écoles, supprimer les bibliothèques, confier tout aux généraux de division. Et on exaltait les campagnes, l'homme illettré ayant naturellement plus de sens que les autres. Les haines foisonnaient. Haines contre les instituteurs primaires et contre les marchands de vin, contre les classes de philosophie, contre les cours d'histoire, contre les romans, les gilets rouges, les barbes longues, contre toute indépendance, toute manifestation individuelle. Car il fallait relever le principe d'autorité. Qu'elle s'exerça au nom de n'importe qui, qu'elle vint de n'importe où, pourvu que ce fût la force, l'autorité. Les conservateurs parlaient maintenant comme Sénécal. Frédéric ne comprenait plus. Et il retrouvait chez son ancienne maîtresse les mêmes propos, débités par les mêmes hommes. Les salons des filles, c'est de ce temps-là que date leur importance, étaient un terrain neutre où les réactionnaires de bords différents se rencontraient. Hussonnet, qui se livrait au dénigrement des gloires contemporaines, bonne chose pour la restauration de l'ordre, inspira l'envie à Rosanette d'avoir, comme une autre, ses soirées. Il en ferait des comptes rendus, et il amena d'abord un homme sérieux, Fumichon, puis parurent Nonancourt, monsieur de Grémonville, le sieur de l'Arcillois, ex-préfet, et Sizi, qui était maintenant agronome, bas breton et plus que jamais chrétien. Il venait en outre d'anciens amants de la maréchale, tels que le baron de Comyn, le comte de Jumillac et quelques autres. La liberté de leurs allures blessait Frédéric. Afin de se poser comme le maître, il augmenta le train de la maison. Alors on prit un groom, on changea de logement et on eut un mobilier nouveau. Ces dépenses étaient utiles pour faire paraître son mariage moins disproportionné à sa fortune. Aussi diminuait-elle effroyablement. Et Rosanette ne comprenait rien à tout cela. Bourgeoise déclassée, elle adorait la vie de ménage, un petit intérieur paisible. Cependant, elle était contente d'avoir un jour. Disait « Ces femmes-là, en parlant de ses pareilles, voulaient être une dame du monde. S'en croyait une. » Elle le pria de ne plus fumer dans le salon, essaya de lui faire maigre par bon genre. Elle mentait à son rôle, enfin, car elle devenait sérieuse, et même, avant de se coucher, montrait toujours un peu de mélancolie, comme il y a des cyprès à la porte d'un cabaret. Il en découvrit la cause. Elle rêvait mariage, elle aussi. Frédéric en fut exaspéré. D'ailleurs, il se rappelait son apparition chez Madame Arnoux. Et puis, il lui gardait rancune pour sa longue résistance. Il n'en cherchait pas moins quels avaient été ses amants. Elle les niait tous. Une sorte de jalousie l'envahit. Il s'irrita des cadeaux qu'elle avait reçus, qu'elle recevait, et à mesure que le fond même de sa personne l'agaçait davantage, un goût d'essence âpre et bestial l'entraînait vers elle. Illusion d'une minute qui se résolvait en haine. Ses paroles, sa voix, son sourire, tout vint à lui déplaire. Ses regards surtout. Cet œil de femme éternellement limpide et inepte. Il s'en trouvait tellement excédé quelquefois qu'il l'aurait vue mourir sans émotion. Mais comment se fâcher? Elle était d'une douceur désespérante. Des lauriers reparut et expliqua son séjour à Nogent en disant qu'il y marchandait une étude d'avoué. Frédéric fut heureux de le revoir. C'était quelqu'un. Il le mit en tiers dans la compagnie. L'avocat dînait chez eux de temps à autre, et quand il s'élevait de petites contestations, se déclarait toujours pour Rosanette. Si bien qu'une fois, Frédéric lui dit « Eh, couche avec elle si ça t'amuse !» tant il souhaitait un hasard qui l'en débarrassa. Vers le milieu du mois de juin, elle reçut un commandement où maître Athanase Gautereau, huissier, lui enjoignait de solder 4 000 francs dus à la demoiselle Clémence Vatnaz, sinon qu'il viendrait le lendemain la saisir. En effet, des 4 billets autrefois souscrits, un seul était payé, l'argent qu'elle avait pu avoir depuis lors ayant passé à d'autres besoins. Elle courut chez Arnoux. Il habitait le faubourg Saint-Germain, et le portier ignorait la rue. Elle se transporta chez plusieurs amis, ne trouva personne et rentra désespérée. Elle ne voulait rien dire à Frédéric, tremblant que cette nouvelle histoire ne fît du tort à son mariage. Le lendemain matin, M. Athanase Gautereau se présenta, flanqué de 2 acolytes, l'un blême à figure chafouine, l'air dévoré d'envie, l'autre portant un faux col et des sous-pieds très tendus avec un délot de taffetas noir à l'index. Et tous deux, ignoblement sales, avaient des cols gras, des manches de redingote trop courtes. Leur patron, un fort bel homme au contraire, commença par s'excuser de sa mission pénible, tout en regardant l'appartement. « Plein de jolies choses, ma parole d'honneur !» Il ajouta, outre celles qu'on ne peut saisir. Sur un geste, les 2 recors disparurent. Alors ses compliments redoublèrent. Pouvait-on croire qu'une personne aussi charmante n'eût pas d'amis sérieux? Une vente par autorité de justice était un véritable malheur. On ne s'en relève jamais. il tâcha de l'effrayer. Puis, la voyant émue, prit subitement un ton paterne. Il connaissait le monde, il avait eu affaire à toutes ces dames. Et en les nommant, il examinait les cadres sur les murs. C'étaient d'anciens tableaux du brave Arnoux, des esquisses de Sombal, des aquarelles de Burieux, trois paysages de Dittmer. Rosanette n'en savait pas le prix, évidemment. Maître Gautereau se tourna vers elle. « Tenez, pour vous montrer que je suis un bon garçon, faisons une chose. Cédez-moi ces Dittmer-là, et je paye tout. Est-ce convenu ?» À ce moment, Frédéric, que Delphine avait instruit dans l'antichambre et qui venait de voir les deux praticiens, entra, le chapeau sur la tête, d'un air brutal. Maître Gautereau reprit sa dignité, et comme la porte était restée ouverte, « Allons, messieurs, écrivez. Dans la seconde pièce, nous disons une table de chêne avec ses deux rallonges, deux buffets. » Frédéric l'arrêta, demandant s'il n'y avait pas quelque moyen d'empêcher la saisie. « Oh, parfaitement. Qui a payé les meubles ?»« Moi. » « Eh bien, formulez une revendication. C'est toujours du temps que vous aurez devant vous. » Maître Gautereau acheva vivement ses écritures et, dans le procès-verbal, assigna en référé Mademoiselle Bron, puis se retira. Frédéric ne fit pas un reproche. Il contemplait sur le tapis les traces de boue laissées par les chaussures des praticiens et, se parlant à lui-même, « Il va falloir chercher de l'argent. » « Ah, mon Dieu, que je suis bête !» dit la maréchale. Elle fouilla dans un tiroir, prit une lettre et s'en alla vivement à la société d'éclairage du Languedoc afin d'obtenir le transfert de ses actions. Elle revint une heure après, les titres étaient vendus à un autre. Le commis lui avait répondu, en examinant son papier, la promesse écrite par Arnoux. « Cet acte ne vous constitue nullement propriétaire. » La compagnie ne connaît pas cela. Bref, il l'avait congédiée, elle en suffoquait. Et Frédéric devait se rendre à l'instant même chez Arnoux pour éclaircir la chose. Mais Arnoux croirait peut-être qu'il venait pour recouvrer indirectement les 15 000 francs de son hypothèque perdue. Et puis cette réclamation à un homme qui avait été l'amant de sa maîtresse lui semblait une turpitude. Choisissant un moyen terme, il alla prendre à l'hôtel d'Ambreuse l'adresse de Madame Regimbard, envoya chez elle un commissionnaire et connut ainsi le café que hantait maintenant le citoyen. C'était un petit café sur la place de la Bastille où il se tenait toute la journée dans le coin de droite, au fond, ne bougeant pas plus que s'il avait fait partie de l'immeuble. Après avoir passé successivement par la demi-tasse, le grog, le bischoff, le vin chaud et même l'eau rougie, il était revenu à la bière et, de demi-heure en demi-heure, laissait tomber ce mot « boc », ayant réduit son langage à l'indispensable. Frédéric lui demanda s'il voyait quelquefois Arnoux. « Non. »« Tiens, pourquoi ? » ?»« Un imbécile. » La politique peut-être les séparait, et Frédéric crut bien faire de s'informer de Compin. « Quelle brute !» dit Regimbard. « Comment cela ? Sa tête de veau ! Ah, apprenez-moi ce que c'est que la tête de veau !» Regimbard eut un sourire de pitié. « Des bêtises !» Frédéric, après un long silence, reprit. « Il a donc changé de logement ?»«
Qui ?»«
Arnoux !»
« Oui, rue de Fleurus. »«
Quel numéro ?
Est-ce que je fréquente les jésuites ?»«
Comment, jésuites ?» Le citoyen répondit, furieux, « Avec l'argent d'un patriote que je lui ai fait connaître, ce conchon-là s'est établi marchand de chapelet. »«
Pas possible.
Allez y voir. » Rien de plus vrai. Arnoux, affaibli par une attaque, avait tourné à la religion. D'ailleurs, il avait toujours eu un fond de religion. Et, avec l'alliage de mercantilisme et d'ingénuité qui lui était naturel, pour faire son salut et sa fortune, il s'était mis dans le commerce des objets religieux. Frédéric n'eut pas de mal à découvrir son établissement, dont l'enseigne portait « aux arts gothiques, restauration du culte,
ornements d'église, sculptures polychromes, encens des rois mages, etc. Aux deux coins de la vitrine s'élevaient deux statues en bois, bariolées d'or, de cinabre et d'azur. Un saint Jean-Baptiste avec sa peau de mouton et une sainte Geneviève, des roses dans son tablier et une quenouille sous son bras. Puis des groupes en plâtre. Une bonne sœur instruisant une petite fille, une mère à genoux près d'une couchette, trois collégiens devant la sainte table. Le plus joli était une manière de chalet figurant l'intérieur de la crèche avec l'âne, le bœuf et l'enfant Jésus étalé sur de la paille, de la vraie paille. Du haut en bas des étagères, on voyait des médailles à la douzaine, des chapelets de toute espèce, des bénitiers en forme de coquille et les portraits de gloires ecclésiastiques, parmi lesquels brillaient Monseigneur Affre et notre Saint-Père, tous deux souriants. Arnoux, à son comptoir, sommeillait la tête basse. Il était prodigieusement vieilli, avait même autour des tempes une couronne de boutons roses, et le reflet des croix d'or frappées par le soleil tombait dessus. Frédéric, devant cette décadence, fut pris de tristesse. Par dévouement pour la maréchale, il se résigna cependant, et il s'avançait. Au fond de la boutique, Madame Arnoux parut. Alors, il tourna les talons. « Je ne l'ai pas trouvé, » dit-il en rentrant. Et il eut beau reprendre qu'il allait écrire tout de suite à son notaire du Havre pour avoir de l'argent, Rosanette s'emporta. On n'avait jamais vu un homme si faible, si mollasse. Pendant qu'elle endurait mille privations, les autres se gobergeaient. Frédéric songeait à la pauvre Madame Arnoux, se figurant la médiocrité navrante de son intérieur. Il s'était mis au secrétaire, et comme la voix aigre de Rosanette continuait, « Ah, au nom du ciel, tais-toi! Vas-tu les défendre par hasard ?»« Eh bien oui !» s'écria-t-il. « Car d'où vient cet acharnement ?»« Mais toi, pourquoi ne veux-tu pas qu'il paie? C'est dans la peur d'affliger ton ancienne, avoue-le !» Il eut envie de l'assommer avec la pendule. Les paroles lui manquèrent, il se tut. Rosanette, tout en marchant dans la chambre, ajouta « Je vais lui flanquer un procès à ton Arnoux. Oh, je n'ai pas besoin de toi !» Et pinçant les lèvres, « Je consulterai. » Trois jours après, Delphine entra brusquement. « Madame, madame, il y a là un homme avec un pot de colle qui me fait peur !» Rosanette passa dans la cuisine et vit un chenapan, la face criblée de petites véroles, paralytique d'un bras, aux trois quarts ivre et bredouillant. C'était l'afficheur de maître Gautereau. L'opposition à la saisie ayant été repoussée, la vente naturellement s'ensuivait. Pour sa peine d'avoir monté l'escalier, il réclama d'abord un petit verre, puis il implora une autre faveur, à savoir des billets de spectacle, croyant que madame était une actrice. Il fut ensuite plusieurs minutes à faire des clignements d'yeux incompréhensibles. Enfin, il déclara que moyennant 40 sous, il déchirerait les coins de l'affiche déjà posée en bas contre la porte. Rosanette s'y trouvait désignée par son nom, rigueur exceptionnelle qui marquait toute la haine de la Vatnaz. Elle avait été sensible autrefois, et même, dans une peine de cœur, avait écrit à Béranger pour en obtenir un conseil. Mais elle s'était aigrie sous les bourrasques de l'existence, ayant tour à tour donné des leçons de piano, présidé une table d'hôte, collaboré à des journaux de mode, sous-loué des appartements, fait le trafic des dentelles dans le monde des femmes légères, où ses relations lui permirent d'obliger beaucoup de personnes. Arnoux, entre autres. Elle avait travaillé auparavant dans une maison de commerce. Elle y soldait les ouvrières, et il y avait pour chacune d'elles deux livres, dont l'un restait toujours entre ses mains. Dussardier, qui tenait par obligeance celui d'une nommée Hortense Baselin, se présenta un jour à la caisse au moment où Mademoiselle Vatnaz apportait le compte de cette fille. 1,682 francs, que le caissier lui paya.
Or, la veille même, Dussardier n'en avait inscrit que 1,082 sur le livre de la Basselin. Il le redemanda sous un prétexte, puis, voulant ensevelir cette histoire de vol, lui conta qu'il l'avait perdue. L'ouvrière redit naïvement son mensonge à Mademoiselle Vatnaz. Celle-ci, pour en avoir le cœur net, d'un air indifférent, vint en parler au brave commis. Il se contenta de répondre « Je l'ai brûlé ». Ce fut tout. Elle quitta la maison peu de temps après, sans croire à l'anéantissement du livre et s'imaginant que Dussardier le gardait. À la nouvelle de sa blessure, elle était accourue chez lui dans l'intention de le reprendre. Puis, n'ayant rien découvert, malgré les perquisitions les plus fines, elle avait été saisie de respect, et bientôt d'amour pour ce garçon, si loyal, si doux, si héroïque et si fort. Une pareille bonne fortune à son âge était inespérée. Elle se jeta dessus avec un appétit d'ogresse, et elle en avait abandonné la littérature, le socialisme, les doctrines consolantes et les utopies généreuses. Le cours qu'elle professait sur la désubalternisation de la femme, tout d'Elbar lui-même. Enfin, elle offrit à Dussardier de s'unir par un mariage. Bien qu'elle fût sa maîtresse, il n'en était nullement amoureux. D'ailleurs, il n'avait pas oublié son vol. Puis elle était trop riche. Il la refusa. Alors, elle lui dit en pleurant les rêves qu'elle avait faits. C'était d'avoir à eux deux un magasin de confection. Elle possédait les premiers fonds indispensables, qui s'augmenteraient de 4 000 francs la semaine prochaine, et elle narra ses poursuites contre la maréchale. Dussardier en fut chagrin à cause de son ami. Il se rappelait le porte-cigare offert au corps de garde les soirs du quai Napoléon. Tant de bonnes causeries, de livres prêtés, les 1000 complaisances de Frédéric. Il pria la Vatnaz de se désister. Elle le railla de sa bonhomie, en manifestant contre Rosanette une exécration incompréhensible. Elle ne souhaitait même la fortune que pour l'écraser plus tard avec son carrosse. Ces abîmes de noirceur effrayèrent Dussardier. Et quand il sut positivement le jour de la vente, il sortit. Dès le lendemain matin, il entrait chez Frédéric avec une contenance embarrassée. « J'ai des excuses à vous faire. »« De quoi donc ? » ?»« Vous devez me prendre pour un ingrat, moi dont elle est... » Il balbutiait. « Oh, je ne la verrai plus, je ne serai pas son complice. » Et l'autre, le regardant tout surpris, « Est-ce qu'on ne va pas, dans 3 jours, vendre les meubles de votre maîtresse ?»« Qui vous a dit cela ?»« Elle-même, la Vatnaz. » Mais j'ai peur de vous offenser. Impossible, cher ami. Ah, c'est vrai, vous êtes si bon. Et il lui tendit d'une main discrète un petit portefeuille de basane. C'était 4 000 francs, toutes ses économies. Comment ? Ah non, non. Je savais bien que je vous blesserais, répliqua Dussardier avec une larme au bord des yeux. Frédéric lui serra la main, et le brave garçon reprit d'une voix dolente « Acceptez-les. Faites-moi ce plaisir-là. Je suis tellement désespérée. Est-ce que tout n'est pas fini, d'ailleurs ? J'avais cru, quand la révolution est arrivée, qu'on serait heureux. Vous rappelez-vous comme c'était beau, comme on respirait bien ? Mais nous voilà retombés pire que jamais. » Et, fixant ses yeux à terre, « Maintenant, ils tuent notre République, comme ils ont tué l'autre, la Romaine, et la pauvre Venise. » La pauvre Pologne, la pauvre Hongrie. Quelles abominations! D'abord, on a abattu les arbres de la liberté, puis restreint le droit de suffrage, fermé les clubs, rétabli la censure et livré l'enseignement aux prêtres, en attendant l'Inquisition. Pourquoi pas? Des conservateurs nous souhaitent bien les Cosaques. On condamne les journaux quand ils parlent contre la peine de mort. Paris regorge de baïonnettes. 16 départements sont en état de siège, et l'amnistie qui est encore une fois repoussée. » Il se prit le front à 2 mains, puis, écartant les bras comme dans une grande détresse, « Si on tâchait, cependant, si on était de bonne foi, on pourrait s'entendre. Mais non, les ouvriers ne valent pas mieux que les bourgeois, voyez-vous. À Elbeuf, dernièrement, ils ont refusé leur secours dans un incendie. Des misérables traitent Barbès d'aristocrate. Pour qu'on se moque du peuple, ils veulent nommer à la présidence Nadeau, un maçon. Je vous demande un peu. Et il n'y a pas de moyen, pas de remède. Tout le monde est contre nous. Moi, je n'ai jamais fait de mal. Et pourtant, c'est comme un poids qui me pèse sur l'estomac. J'en deviendrai fou si ça continue. J'ai envie de me faire tuer. Je vous dis que je n'ai pas besoin de mon argent. Vous me le rendrez, parbleu, je vous le prête. » Frédéric, que la nécessité contraignait, finit par prendre ses 4 000 francs. Ainsi, du côté de la Vatnaz, il n'avait plus d'inquiétude. Mais Rosanette perdit bientôt son procès contre Arnoux, et par entêtement voulait en appeler. Des lauriers s'exténuaient à lui faire comprendre que la promesse d'Arnoux ne constituait ni une donation ni une cession régulière. Elle n'écoutait même pas, trouvant la loi injuste. C'est parce qu'elle était une femme. Les hommes se soutenaient entre eux. À la fin, cependant, elle suivit ses conseils. Il se gênait si peu dans la maison que plusieurs fois il amena Sénécal y dîner. Ce sans-façon déplut à Frédéric, qui lui avançait de l'argent, le faisait même habiller par son tailleur. Et l'avocat donnait ses vieilles redingotes aux socialistes, dont les moyens d'existence étaient inconnus. Il aurait voulu servir Rosanette. Cependant, un jour qu'elle lui montrait 12 actions de la compagnie du Kaolin, cette entreprise qui avait fait condamner Arnoux à 30 000 francs, il lui dit « Mais c'est véreux, c'est superbe !» Elle avait le droit de la signer pour le remboursement de ses créances. Elle prouverait d'abord qu'il était tenu solidairement à payer tout le passif de la compagnie, puis qu'il avait déclaré comme dette collective des dettes personnelles, enfin qu'il avait diverti plusieurs effets à la société. Tout cela le rend coupable de banqueroute frauduleuse, articles 586 et 587 du Code de commerce. Et nous l'emballerons, soyez-en sûre, ma mignonne. Rosanette lui sauta au cou. Il la recommanda le lendemain à son ancien patron, ne pouvant s'occuper lui-même du procès, car il avait besoin à nos gens. Sénécal lui écrirait en cas d'urgence. Ses négociations pour l'achat d'une étude étaient un prétexte. Il passait son temps chez M. Roch, où il avait commencé non seulement par faire l'éloge de leur ami, mais par l'imiter d'allure et de langage autant que possible, ce qui lui avait obtenu la confiance de Louise, tandis qu'il gagnait celle de son père en se déchaînant contre le Drurolin. Si Frédéric ne revenait pas, c'est qu'il fréquentait le grand monde. Et peu à peu, des lauriers leur apprit qu'il aimait quelqu'un, qu'il avait un enfant, qu'il entretenait une créature. Le désespoir de Louise fut immense, l'indignation de Madame Moreau non moins forte. Elle voyait son fils tourbillonnant vers le fond d'un gouffre vague, était blessée dans sa religion des convenances et en éprouvait comme un déshonneur personnel. Quand tout à coup, sa physionomie changea. Aux questions qu'on lui faisait sur Frédéric, elle répondait d'un air narquois « Il va très bien, très bien !» Elle savait son mariage avec Madame d'Ambreuse. L'époque en était fixée, et même il cherchait comment faire avaler la chose à Rosanette. Vers le milieu de l'automne, elle gagna son procès relatif aux actions de Kaolin. Frédéric la prit en rencontrant à sa porte Sénécal qui sortait de l'audience. On avait reconnu M. Arnoux complice de toutes les fraudes, et l'ex-répétiteur avait un tel air de s'en réjouir que Frédéric l'empêcha d'aller plus loin, en assurant qu'il se chargeait de sa commission près de Rosanette. Il entra chez elle, la figure irritée. « Eh bien, te voilà contente !» Mais sans remarquer ses paroles, « Regarde donc !» Et elle lui montra son enfant, couché dans un berceau, près du feu. Elle l'avait trouvé si mal le matin chez sa nourrice qu'elle l'avait ramené à Paris. Tous ses membres étaient maigris extraordinairement, et ses lèvres couvertes de points blancs, qui faisaient dans l'intérieur de sa bouche comme des caillots de lait. Qu'a dit le médecin ? Ah, le médecin, il prétend que le voyage a augmenté son... je ne sais plus, un nom en... it. Enfin, qu'il a le muguet. Connais-tu cela ?
Frédéric n'hésita pas à répondre « Certainement », ajoutant que ce n'était rien. Mais dans la soirée, il fut effrayé par l'aspect débile de l'enfant et le progrès de ses taches blanchâtres, pareilles à de la moisissure, comme si la vie, abandonnant déjà ce pauvre petit corps, n'eût laissé qu'une matière où la végétation poussait. Ses mains étaient froides, il ne pouvait plus boire maintenant, et la nourrice, une autre que le portier avait été prendre au hasard dans un bureau, répétait « Il me paraît bien bas, bien bas !» Rosanette fut debout toute la nuit. Le matin, elle alla trouver Frédéric. « Viens donc voir, il ne remue plus !» En effet, il était mort. Elle le prit, le secoua, l'étreignait en l'appelant des noms les plus doux, le couvrait de baisers et de sanglots. Tournait sur elle-même éperdue, s'arrachait les cheveux, poussait des cris, et se laissait tomber au bord du divan, où elle restait la bouche ouverte, avec un flot de larmes tombant de ses yeux fixes. Puis une torpeur la gagna, et tout devint tranquille dans l'appartement. Les meubles étaient renversés, deux ou trois serviettes traînaient, 6 heures sonnèrent, la veilleuse s'éteignit. Frédéric, en regardant tout cela, croyait presque rêver. Son cœur se serrait d'angoisse. Il lui semblait que cette mort n'était qu'un commencement, et qu'il y avait par derrière un malheur plus considérable près de survenir. Tout à coup, Rosanette dit d'une voix tendre « Nous le conserverons, n'est-ce pas ?» Elle désirait le faire embaumer. Bien des raisons s'y opposaient. La meilleure, selon Frédéric, c'est que la chose était impraticable sur des enfants si jeunes. Un portrait valait mieux. Elle adopta cette idée. Il écrivit un mot à Pellerin, et Delphine courut le porter. Pellerin arriva promptement, voulant effacer par ce zèle tout souvenir de sa conduite. Il dit d'abord « Pauvre petit ange ! Ah, mon Dieu, quel malheur !» Mais peu à peu, l'artiste en lui l'emportant, il déclara qu'on ne pouvait rien faire avec ses yeux bistrés, cette face livide, que c'était une véritable nature morte, qu'il faudrait beaucoup de talent, et il murmurait « Ah, pas commode, pas commode !»« Pourvu que ce soit ressemblant !» objecta Rosanette. « Eh, je me moque de la ressemblance ! Ah bah le réalisme ! C'est l'esprit qu'on peint ! Laissez-moi, je vais tâcher de me figurer ce que ça devait être. » Il réfléchit, le front dans la main gauche, le coude dans la droite. Puis tout à coup, ah, une idée, un pastel, avec des demi-teintes colorées, passées presque à plat. On peut obtenir un beau modelé, sur les bords seulement. Il envoya la femme de chambre chercher sa boîte. Puis, ayant une chaise sous les pieds et une autre près de lui, il commença à jeter de grands traits, aussi calme que s'il eût travaillé d'après la bosse. Il vantait les petits Saint-Jean de Corrège, l'infante Rose de Velasquez, les chères lactées de Reynolds, la distinction de Laurence, et surtout l'enfant aux longs cheveux qui est sur les genoux de Lady Gower. « D'ailleurs, peut-on trouver rien de plus charmant que ces crapauds-là ? Le type du sublime !» Raphaël l'a prouvé par ses madones. C'est peut-être une mère avec son enfant. Rosanette, qui suffoquait, sortit, et Pellerin dit aussitôt « Eh bien, Arnoux, vous savez ce qui arrive ?»« Non, quoi ? Ça devait finir comme ça, du reste. Mais qu'est-ce donc ? Il est peut-être maintenant... Pardon. » L'artiste se leva pour exaucer la tête du petit cadavre. « Vous disiez ?» reprit Frédéric. Et Pellerin, tout en clignant pour mieux prendre ses mesures, « Je disais que notre ami Arnoux est peut-être maintenant coffré. » Puis, d'un ton satisfait, « Regardez un peu, est-ce ça ?»« Oui, très bien, mais Arnoux !» Pellerin déposa son crayon. « D'après ce que j'ai pu comprendre, il se trouve poursuivi par un certain Mignot. »
un intime de Reginbard. Une bonne tête, celui-là, hein ?
Quel idiot !
Figurez-vous qu'un jour...
Eh, il ne s'agit pas de Reginbard !
C'est vrai. Eh bien, Arnoux, hier au soir, devait trouver 12 000 francs. Sinon, il était perdu.
Oh, c'est peut-être exagéré, dit Frédéric.
Pas le moins du monde. Ça m'avait l'air grave, très grave. Rosanette, à ce moment, reparut avec des rougeurs sous les paupières, ardentes comme des plaques de phare. Elle se mit près du carton et regarda. Pèlerin fit signe qu'il se taisait à cause d'elle. Mais Frédéric, sans y prendre garde,
« Cependant, je ne peux pas croire. »«
Je vous répète que je l'ai rencontré hier, » dit l'artiste, « à 7 heures du soir, rue Jacob. Il avait même son passeport, par précaution, et il parlait de s'embarquer au Havre, lui et toute sa smala. »«
Comment ? Avec sa femme ?
Sans doute, il est trop bon père de famille pour vivre tout seul. »«
Et vous en êtes sûr ?
Parbleu, où voulez-vous qu'il ait trouvé 12 000 francs ?» Frédéric fit 2 ou 3 tours dans la chambre. Il haletait, se mordait les lèvres, puis saisit son chapeau.
« Où vas-tu donc ? » dit Rosanette.
Il ne répondit pas et disparut.